On n'est pas seul au monde.
Penser l'avenir de l'anthropologie.
Diversifier les manières d'être au monde.
Il y a une très grande diversité d'existants.
Comment on va restituer un monde complètement fragmenté?
Et comment est-ce qu'on vit avec eux? Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de mieux composer avec eux?
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Translucide, une émission d'anthropologie qui propose des éclairages sur les enjeux du monde contemporain en donnant la parole aux chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Nous pensons que l'anthropologie a le pouvoir de mettre en perspective nos pratiques et de décentrer notre regard en nous offrant des clés par l'expérience de terrain, les méthodologies d'enquête et la réflexivité. Les sujets choisis pour nos émissions soulèvent des questions transversales d'écologie, d'inégalité sociale, raciale et de genre. Pour la première série de Translucide, nous avons choisi le thème catastrophe.
Translucide, une émission d'anthropologie sur le 93.9 FM. Série catastrophe.
La catastrophe effraie, fascine et produit dans les imaginaires un espace temporel dans lequel il existe un avant et un après. Elle est perçue comme un moment de rupture avec l'ordinaire. Les événements dits naturels, les accidents industriels et les pandémies sont le fruit de constructions qui s'articulent autour de décisions politiques et des organisations sociales. Mais alors, qu'est-ce qui rend un événement catastrophique? Tongoa est une île de 42 km² dans l'archipel du Vanuatu, où près de 2300 personnes vivent au sein de 14 villages. L'île est régulièrement exposée à des aléas climatiques extrêmes en raison de sa situation géographique. Elle connaît une activité volcanique et sismique intense et des dépressions tropicales annuelles qui se transforment parfois en cyclones. Encore récemment, début mars 2023, le pays a subi le passage de deux cyclones et d'un séisme de magnitude 7. Pourtant, les habitants et les habitantes de l'île de Tongoa n'ont pas de mots vernaculaires, c'est-à-dire de termes locaux, pour décrire la catastrophe telle que nous la concevons habituellement dans notre société. Et les conséquences de ces événements destructeurs ne sont pas toujours considérées comme néfastes. Alors comment sont pensées les catastrophes que l'on appelle naturelles par les habitants et les habitantes de l'île de Tongoa au Vanuatu? Dans cette émission, nous discuterons des façons dont les habitants de l'île de Tongoa vivent avec les catastrophes, des façons dont ils les interprètent et de la manière dont ils y répondent. Aujourd'hui, nous recevons Maëlle Calandra, anthropologue à l'IRD. Bonjour Maëlle.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vos recherches portent notamment sur les jardins de subsistance des habitantes et des habitants de l'île de Tongoa au Vanuatu, où vous avez mené une ethnographie entre 2011 et 2018. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, selon les termes de l'anthropologie, qu'est-ce qu'une catastrophe dite naturelle ?
Alors c'est une très bonne question. En anthropologie, ça fait depuis le milieu du siècle dernier qu'on s'intéresse à ce que c'est une catastrophe. Et en l'occurrence, des catastrophes qui peuvent être aussi naturelles. Et donc nous, dans le champ disciplinaire, notre définition, elle est plus ou moins stabilisée. C'est-à-dire que même si elle fait encore l'objet parfois de définitions qui sont pas toujours complètement stabilisées, elles sont pas toujours les mêmes par tous les collègues. On entend catastrophe naturelle, la rencontre entre un aléa naturel, par exemple un séisme, un cyclone, un tremblement de terre, et les conditions de vulnérabilité de la société qui est concernée, enfin qui est touchée par l'aléa. Donc par exemple, un cyclone qui se produirait en pleine mer, ou un tremblement de terre qui se produirait au milieu du désert, puisque dans ces régions-là, il n'y a pas d'être humain, il ne serait pas considéré comme une catastrophe naturelle. Donc la catastrophe, c'est aussi ce qui dépasse, ce qui excède la société qui est touchée par l'événement destructeur.
Le Vanuatu est considéré comme l'un des pays les plus exposés aux risques naturels au monde.
Oui, le Vanuatu, selon un indice qui a été développé par l'Université des Nations Unies, c'est le pays qui est considéré comme étant le plus exposé aux risques de catastrophes naturelles dans le monde pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, parce qu'il concentre en fait une diversité d'événements destructeurs. Il a une grande exposition à de multiples aléas.
Vous avez travaillé sur l'île de Tongoa. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qui sont les habitants et les habitantes de Tongoa ?
Alors, les habitants et les habitantes de Tongoa, donc ce sont 2300 personnes à peu près, qui vivent sur une petite île qui fait à peu près la taille du centre-ville de Paris. Donc, comme vous l'avez dit, une quarantaine de kilomètres carrés. Ce sont des habitants et des habitantes qui sont mélanésiens, c'est-à-dire qui viennent, qui sont arrivés là à peu près il y a 2300 ans. Et en fait, c'est une population qui arrive du sud-est, sud de la Chine, et qui a colonisé la région vers il y a 2000-2300 ans. Ils parlent deux langues vernaculaires différentes, qui sont aussi différentes que le sont pour nous le français et l'espagnol. Et il parle aussi le bislama, qui est la langue véhiculaire, la langue d'intercompréhension du Vanuatu, qui permet en fait aux habitants et aux habitantes de se comprendre.
La culture horticole, c'est-à-dire la culture des jardins, est vraiment centrale sur l'île de Tongoa pour la subsistance, mais aussi au sein des relations sociales. Est-ce que vous pourriez nous parler de la place des jardins dans le quotidien et les pratiques des habitants et habitantes de Tongoa ?
Alors les jardins, effectivement, selon mes enquêtes ethnographiques, permettent l'alimentation quotidienne des familles jusqu'à entre 80 et 90%. Ils recouvrent à peu près 80 à 90% des besoins des habitants en tubercules et en plantes alimentaires. Et ces mêmes tubercules et ces mêmes végétaux, ils assurent aussi tout au long de l'année le bon déroulement d'événements dits coutumiers. Donc par exemple, les cérémonies d'ordination des chefs, les funérailles, les mariages, les baptêmes. En fait, au cours de ces cérémonies, ils sont échangés en grande quantité. Et si par exemple un cyclone devait anéantir la production du jardin, ces mêmes cérémonies ne pourraient pas se tenir puisqu'il n'y aurait pas de biens à échanger en fait. On est dans des sociétés de dons contre dons.
Et donc les habitants et les habitantes collectionnent les graines et les échangent.
Oui, alors ils collectionnent les graines, mais surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle la végéculture. Principalement, on cultive avec des boutures, en fait. Par exemple, le taro, l'igname, le manioc, ça ne se cultive pas à partir de graines, mais de semenceaux. Donc, on va dans le jardin du voisin, on brise un petit morceau d'une branche qu'on va replanter directement dans son jardin. Et en fait, donc c'est comme ça qu'on se constitue un patrimoine végétal qui est aussi transmis de génération en génération. Et au sein des jardins, y a aussi des nouvelles variétés qui émergent et qui viennent aussi renforcer cette collection. Et bien sûr, maintenant, avec la mondialisation, il y a aussi toutes les graines que nous, on connaît, la tomate, la pastèque et les carottes qui sont plantées au sein des jardins et qui viennent aussi remplir les jardins, en fait.
Et donc, plus les jardins sont variés, plus le jardin est considéré.
Oui, alors en fait, ce qui est important localement, c'est d'être un bon jardinier ou une bonne jardinière. Et pour ça, il y a plusieurs critères. En l'occurrence, il faut avoir un jardin aux plantes les plus diversifiées possibles, le plus entretenu possible, donc avec un sol désherbé régulièrement et qui va être qualifié de beau. Parce que justement, il est composé de plein de plantes. Il a le sol noir qui est très visible. Et parfois aussi, les femmes se plaisent à planter des fleurs pour venir un peu rajouter des touches de couleur dans cet amas de verdure. Donc c'est ça, le beau jardin.
Il y a une forte activité volcanique au Vanuatu. Et près de l'île de Tongoa, il y a un volcan sous-marin qui s'appelle Tumpuku, si
oui,
je ne me trompe
c'est
pas,
ça, le
qui est toujours actif. Quelles relations entretiennent les habitants et les habitantes de Tongoa avec ce volcan ?
Donc Tongoa, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le reliquat d'une grande île qui s'appelait l'île de Kauai, qui en 1450 à plus ou moins 2 ans a littéralement explosé à l'issue d'une éruption volcanique cataclysmique dont on a retrouvé des reliquats jusque dans les glaces du pôle sud, qui ont interrompu des combats en Turquie à cette époque-là, au XVe siècle. Donc ce volcan qui est à l'origine de ce cataclysme a divisé en fait cette grande île en petits morceaux dont Tongoa fait partie. Et aujourd'hui, ce volcan, il n'est plus aérien, mais il est sous-marin. Et donc il est encore en activité. Il donne de temps en temps des signes de vie, c'est-à-dire que l'eau de mer à la surface change de couleur. Il y a aussi des fumerolles sur l'île. qui sont à peu près à 180 degrés où les femmes vont cuire leurs marmites. Il y a une odeur de soufre très intense à en certains endroits sur l'île. Et donc ce volcan, dans les représentations locales, on considère, en fait, il y a une histoire coutumière qui explique l'origine de ce volcan et pourquoi il a explosé littéralement l'île de Kauai en petits morceaux. Et au sein de ce volcan, en fait, le feu est contenu par un lézard. Et on considère que le volcan est actif parce que le lézard est toujours vivant au sein du volcan.
Pendant votre ethnographie, vous avez utilisé le dessin comme outil d'enquête. Qu'est-ce que la pratique du dessin a apporté à votre enquête de terrain que les entretiens ne permettaient pas ?
Alors en fait, le dessin, déjà j'en suis venue là parce que donc, la première fois que je suis arrivée à Tongua, c'était en 2011. J'étais en master 1, je ne parlais pas les langues vernaculaires, j'étais en train d'apprendre le bislama. Et je me suis dit que dans un premier temps, ça pouvait constituer une interface de discussion avec les personnes que je rencontrais. Et après, au bout d'un certain temps d'expérimentation, je me suis rendu compte aussi que c'était un outil en fait, de travail pour interroger les gens sur leur volcan, la façon dont ils se le représentaient, dont ils l'imaginaient, la forme qu'il avait. Sachant que le volcan, moi, je ne pouvais pas aller le voir. Il est profond, il est quand même assez distant de l'île, des côtes. Et donc, moi, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient bien dessiner le volcan, quelle était sa forme. Mais pas seulement, j'ai aussi cherché à interroger les mémoires, par exemple, à quoi ressemblait l'eau de la surface de la mer avant une éruption volcanique, quelle teinte elle prenait, quels étaient les signes pour eux qui étaient considérés comme avant-coureurs et annonciateurs de l'éruption volcanique.
Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert avec le dessin ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'aurez pas pu aborder en entretien, que le dessin a permis de faire émerger ?
Alors, dans un premier temps, quand je suis arrivée, je me suis dit que j'allais demander aux enfants, en fait, de dessiner le volcan sous-marin. Et je me suis rendu compte qu'ils dessinaient pas du tout le volcan sous-marin, mais qu'ils dessinaient le volcan de Lopévi. C'est une île qu'on voit au loin de Tongua et qui est un volcan qui a vraiment la forme qu'on connaît d'un volcan, un cône. C'est une île volcan et donc, en fait, ils dessinaient le Lopévi. De fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants de Tongua ne savaient pas qu'il y avait un volcan sous-marin à côté de leur île. Et donc déjà ça a été une piste de savoir à quel moment on parle du volcan aux enfants en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à raconter à nos enfants qu'il y a un volcan à côté et qu'il est à l'origine d'un cataclysme que les générations précédentes ont expérimenté. Donc ça c'était un premier point. Donc le moment au cours duquel on transmet l'information. Et après déjà c'était aussi ce fameux lézard, comment il était refiguré. Et dans le cadre d'un travail que j'avais fait en master 2, à Tana, donc il y a longtemps. En fait, j'ai demandé aux gens de me dessiner l'avant-après le disaster, donc la catastrophe. Et je me suis rendu compte qu'ils mettaient sur le même plan le cyclone, le tremblement de terre, l'incursion d'une vache ou d'un cochon dans les cultures, mais aussi, et là c'est un peu spécifique à Tana, le sang menstruel des femmes, qui est considéré comme impur, comme une pollution. Et en fait, si une femme à ses règles et qu'elle va travailler dans les jardins. Quelques semaines plus tard, les végétaux qui se trouvent dans la parcelle pourrissent. Mais ça, c'est assez spécifique à Tana et c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans mes enquêtes à Tongua.
Et bien, en tout cas, c'est une très bonne manière d'introduire la notion de disaster dont on va discuter juste après une petite pause musicale.
Sing, go, sing, go, sing, go, sing, go, sing, go.
Vous écoutez toujours Translucide sur Radio Campus Paris. C'était Charlotte Dasintos. On reprend tout de suite.
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris. Série Catastrophe. Maëlle Calandra, vous avez mené une ethnographie donc sur l'île de Tongoa 4 mois après le passage destructeur en mars 2015 du cyclone PAM. Un cyclone de catégorie 5 avec des vents soufflant à plus de 320 km/h. C'est le cyclone le plus puissant enregistré depuis Zoé en 2002. Le cyclone a touché toutes les provinces du pays, il a causé la mort de 11 personnes, il a fait de nombreux blessés et il a détruit environ 18 000 habitations. Les événements destructeurs, on l'a vu, ils sont fréquents pour les habitants de Tongoa. Pourtant, ils n'ont pas de terme vernaculaire qui traduise la notion de catastrophe telle que nous, on la connaît. Ils utilisent le terme bislama, vous l'avez dit à l'instant, disaster, qui est dérivé de l'anglais disaster. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion, puisque vous dites qu'elle elle traduit une large variété d'événements dont l'origine peut être variée, qui dépend du contexte de l'observateur, de l'observatrice et de nombreuses caractéristiques. Donc, est-ce que vous pouvez tenter une définition de disaster?
Alors, je vais tenter. Donc, en fait, déjà, pour vous retracer un petit peu l'histoire de comment j'en suis arrivée à travailler sur ce terme, en fait, toujours pareil, en 2011, quand j'étais au Vanuatu pour la première fois de ma vie, au cours de l'enquête de terrain, moi, j'avais vraiment décidé à ce moment-là de travailler plutôt sur le volcan et les relations des habitants de l'île avec leur volcan. Et au cours de l'enquête, il y a eu un cyclone, le cyclone Atu, qui était un petit cyclone de catégorie 2, mais qui pour moi, française, qui n'a jamais expérimenté les cyclones autrement qu'à travers ma télévision, c'était un événement assez impressionnant. Il y a des maisons qui sont tombées dans le village, tous les fruits des arbres, en l'occurrence les agrumes, se sont retrouvés au sol. Il y a, je me rappelle, une vache qui est morte dans le village. Et pour autant, les gens n'ont pas du tout parlé de cet événement comme d'un disaster, comme d'une catastrophe, mais plutôt comme un événement bienvenu, une bonne nouvelle pour tout un tas de raisons sur lesquelles je vais pas m'attarder. Mais donc en fait, ça m'a fait me rendre compte qu'il pouvait y avoir des cyclones, que le cyclone pouvait avoir des vertus positives, ce que moi je n'avais jamais imaginé dans mon expérience de française et le rapport que nous on a ici aux catastrophes. Et donc, je me suis demandé, dans le cadre de ma thèse, un peu plus tard, quel était en fait le seuil de mesure de la catastrophe et finalement, c'est quoi la catastrophe dans le pays le plus exposé au monde aux catastrophes naturelles, c'est quoi une catastrophe? Et je me suis rendu compte que le seuil de mesure de cette catastrophe, c'était le jardin de subsistance dont on a parlé tout à l'heure et qu'au sein de cet espace, en fait, à partir de là, se déploie en fait tout un tas de qualificatifs pour expliciter le disaster. Donc voilà, on a dit, la catastrophe se rapporte au jardin. Il n'y a pas de mot en langue vernaculaire pour dire catastrophe, mais il existe un mot en bislama, la langue véhiculaire du pays, en anglais, pour l'exprimer, et c'est disaster. Et en fait, le disaster, donc, il peut être positif ou négatif. Positif, souvent, c'est le cyclone ou l'éruption volcanique quelques années plus tard, vu que le jardin est devenu fertile grâce aux cendres volcaniques ou grâce aux dépôts de sel laissé par les rafales de vent dans les jardins et que la fertilité des jardins a cru, on va dire que c'est un événement positif. C'est aussi un événement, selon s'il touche toute la communauté ou s'il touche qu'une famille, il ne va pas avoir la même incidence sur la structure sociale. Enfin voilà, il y a tout un tas de qualificatifs qui se déploient pour justement définir ce que c'est le disaster.
Alors justement, par exemple, parfois, quand un événement destructeur touche seulement un petit groupe de personnes, il peut être qualifié comme étant négatif, alors que parfois, quand il touche en fait, toute la communauté, il peut avoir une qualification positive parce que ça entraînerait une réaction peut-être plus forte d'aide, que ça permettrait une meilleure cohésion sociale. Par exemple, le cyclone PAM qui a touché quasiment tout le monde a été considéré comme positif.
Alors le cyclone PAM, effectivement, donc il a touché toutes les provinces de l'archipel. À Tongoa, toutes les familles ont été impactées, d'autres plus que d'autres, mais globalement tous les jardins ont été détruits, toutes les maisons ont été détruites. Et en fait, au lendemain du cyclone, de manière à garantir rapidement l'autosuffisance alimentaire des familles, les chefs des villages ont organisé des travaux de groupe jour après jour dans les jardins des différentes familles pour que très vite les jardins soient remis en état. À l'inverse, par exemple, une vache, un cochon qui vient à répétition dans votre jardin piétiner les pastèques que vous aviez plantées en prévision de la facture en fait que représentent les frais de scolarité des enfants si les pastèques ont toutes été piétinées. Vous perdez tout l'argent que vous espériez avoir, vous ne pouvez pas participer aux événements coutumiers. Alors qu'en fait, quand le cyclone touche toute la communauté, il y a une vraie solidarité qui se met en place, il y a une entraide, ça vient renforcer la structure sociale. Il y a une solidarité en réseau qui s'observe, là, comme on l'a vu, enfin, quand je vous l'ai dit, avec le chef qui organise le travail dans les jardins. Donc il y a vraiment, ça va être qualifié de disaster, mais pas exactement pour les mêmes raisons et ça ne va pas avoir les mêmes répercussions sur les familles.
Alors il y a une autre distinction, c'est celle entre les disasters qui sont fabriqués d'origine humaine et les disasters naturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette distinction entre les deux types de disasters?
Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, parce que pour moi, une catastrophe, c'était naturel. Mais en fait, au Vanuatu, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que quand un cyclone se produit, les gens qu'on rencontre, ils vont rarement vous dire que ce qui vient de se passer, c'est une catastrophe dite naturelle. C'est plutôt le fait d'un sorcier, d'une personne en fait sur l'île ou d'une autre île, qui a cherché à faire venir le cyclone, soit en réponse à la demande de son chef, parce que le cyclone, quand il vient et qu'il n'est pas trop fort, il permet de remettre à zéro les jardins. Si par exemple il y avait des parasites, si par exemple il y avait des maladies, si les jardins n'étaient plus autant productifs, en fait un petit cyclone, ça permet de remettre à zéro ou de stimuler la croissance des plantes, enfin c'est ce qu'on dit localement. Et donc c'est plutôt considéré comme un événement bienfaiteur, bienvenu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ceux-là sont fabriqués. Et c'est aussi parfois, souvent, en tout cas on peut aussi le penser, même si c'est quelqu'un qui l'a fabriqué, la même personne peut aussi vous dire que c'est Dieu qui l'a voulu, et donc ça c'est pas vraiment naturel, c'est plutôt divin. Et en fait le registre naturaliste qui dirait que le cyclone c'est un événement qu'on pourrait définir à partir de lois physiques, etc., ça c'est vraiment un discours minoritaire au Vanuatu. Donc de manière générale, le cyclone, c'est plutôt un événement fabriqué, un événement souhaité et ou un événement divin.
Est-ce qu'on pourrait dire du coup que les habitants et les habitants de Tongva, ils ont appris à vivre avec la catastrophe ou le disaster comme ils l'appellent?
Oui, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, les premiers habitants, ils sont arrivés dans l'archipel il y a environ 2000 ans et les événements auxquels ils font face régulièrement, c'est pas des événements nouveaux, c'est des événements auxquels ils ont appris. Enfin, quand ils sont arrivés, il y avait déjà les volcans, les cyclones existaient déjà, les risques afférents aux volcans et aux cyclones étaient déjà là, les inondations, les glissements de terrain, etc. Et donc, ils ont appris à vivre avec, ils ont développé des savoir-faire spécifiques, mais aussi, ils ont appris à lire leur environnement d'une manière particulière également, en se transmettant des savoirs. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, reconnaître les couleurs annonciatrices sur la surface de l'eau qui indique que le volcan sous-marin est en train de changer de phase d'activité. En amont du cyclone, il y a aussi des signes annonciateurs, par exemple les arbres qui seraient trop chargés de fruits par rapport à d'habitude, une certaine espèce d'oiseau qui vole très très haut dans le ciel, tout un tas d'éléments qui savent lire et reconnaître et qui sont transmis d'une génération à l'autre, qui font qu'en fait, oui, ils ont appris à vivre avec.
On continue sur ce sujet de la résilience après la lecture.
Le vent bleu monte de la mer. Il est chargé de nuages. Il souffle seulement au printemps. Il traîne sous la pluie et la chaleur. Il couche de grandes ombres sur les prés, sur les terres où le blé pousse, sur les bosquets d'arbres. Ces ombres épaissies par le reflet des sèves nouvelles sont les plus bleues de toutes les ombres. Le ciel est entièrement habité d'un bout à l'autre par d'immenses nuages à forme d'hommes monstrueux ou de bêtes ou de chevaux. Le vent les emporte, les traîne et les pousse. Et surtout, il les anime d'une grande vie qui n'est pas enfermée dans chaque nuage. Puis tout de nouveau coule et glisse avec toutes les formes du monde. Le ciel est dans une grande passion. La pluie descendait sans arrêt sur le plateau. Elle avait pris l'oblique du vent et son caprice. Elle ne tombait pas du ciel. Elle sautait hors du sud par gros paquets, comme si elle était lancée de la mer. La terre du plateau, écrasée par le poids retombant de ses vagues, blessée par le tranchant de ses lames d'eau qui frappaient de biais, fumante d'embrun, tout écorcée, ayant découvert son tendre, coulait en épais ruisseaux de boue le long de toutes les pentes. Les graines, surprises dans leur vie souterraine, se débattaient, se cramponnaient de toutes leurs racines à de petits grumeaux de terre que la pluie effritait. Puis le flot soudain des eaux les arrachait de leurs trous et les emportait, racines écartées comme de petites méduses. Les champs de blé s'enterraient sous les limons des ruisseaux nouveaux. Les arbres dont les feuillages pesants faisaient gémir les branches résistaient au vent et à l'eau. Soudain, dans un écartement de nuages, le calme et le soleil tombaient comme une gerbe de feu. Tout se mettait à glisser de ce qui était la couleur et la lumière de la terre, comme le mouvement éclatant des écailles d'un serpent qui marche. Le ciel blanchissait, les ombres couraient sur le plateau, l'eau coulait le long des rainures des herbes, s'amassait en gouttes au carrefour des nervures des feuilles, jetait brusquement 1000 reflets nouveaux. Avant de s'éteindre sous l'ondulation balancée d'une nouvelle pluie grise que le vent apportait de la mer.
C'était un extrait du roman « Que ma joie demeure » de Jean Giono, lu par Simon Marie, sur une musique de John Adam, « Common Tones in Simple Times ». Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Translucide, votre émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de l'anthropologue Maëlle Calandra.
Maëlle Calandra, dans vos travaux, vous proposez de considérer les jardins comme des espaces résilients. Vous l'avez dit à l'instant, les habitantes et les habitants de Tongoa ont mis en place un système de prévention des risques. On sait aussi qu'ils ont développé un système de des modes constructifs plus adaptés, que leurs jardins sont aussi pensés et les systèmes et les pratiques qui entourent les jardins sont pensés pour se relever rapidement après des événements destructeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les jardins ont été recomposés à la suite du cyclone Pam ?
Alors, à la suite du cyclone Pam, donc les jardins étaient littéralement anéantis. Et surtout, au lendemain du cyclone, le phénomène El Niño s'est installé, donc il n'a pas plu. Et en l'occurrence, les eaux de pluie qui viennent généralement après un cyclone et qui permettent d'éliminer le sel qui se dépose, parce qu'on est sur des îles, donc les rafales de vent projettent en fait l'eau de mer sur le sol. Et là, en l'occurrence, après Pam, il n'y a pas eu de pluie. Donc très rapidement, en plus d'avoir été détruits, les jardins ont complètement jauni, la terre était vraiment chargée de sel. Donc déjà, n'importe quelle culture était très difficile à mettre en place. Il y a eu donc les travaux qui ont été impulsés par les chefs de village, à savoir la solidarité intervillageoise pour que chacun puisse de nouveau être subsistant rapidement, en replantant rapidement les bouts de manioc cassés, en réenfouissant les lianes des ignames, etc. Il y a aussi eu des dons conséquents d'ONG, en l'occurrence d'ONG qui venaient de la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement, et qui ont malheureusement distribué des OGM avec des hybrides avec toutes les limites que représentent ces cultures-là. C'est-à-dire qu'effectivement, rapidement, les familles ont pu avoir des salades, des petites tomates, des aliments pour pouvoir s'alimenter dans les mois qui suivaient. Mais vu que c'était des hybrides F1, ben, ils n'ont pas pu récolter les fameuses graines qui leur permettent de collectionner la variété, en fait, des cultivars qu'ils ont habituellement et qui se plaisent en fait à entretenir. Et donc ça a contribué dans une certaine mesure à maintenir une certaine forme de catastrophe sur la longue durée, parce que les jardins qu'on espérait revoir rapidement fournir l'alimentation des habitants n'étaient plus tout à fait, en tout cas pas comme d'habitude.
Vous décrivez en fait le fait que les graines aient été éparpillées sur le territoire de l'île et qu'à partir de ces graines qui ont poussé, les habitants et les habitantes ont recomposé leur jardin?
Alors en fait, donc au Vanuatu, il fait très chaud, il fait très humide dans un climat subtropical. Donc à chaque récolte, en fait, les familles conservent les graines, par exemple des tomates ou des fleurs ou des salades, des pastèques, des melons, dans des petits... Enfin, ils enrobent ces graines dans des feuilles qui pendent en fait au-dessus du foyer où ils font la cuisine. Et en fait, la fumée du feu empêche aux parasites, empêche à la moisissure de s'installer et ça les conserve. Et donc, les graines sont conservées dans les maisons cuisines des habitants. Sauf que durant le cyclone Pam, ces infrastructures, elles ont été détruites. Et avec les rafales, en fait, toutes les graines qui étaient conservées dans les maisons cuisines ont été dispersées, propulsées parfois jusqu'en forêt. Et donc, quelques semaines après le cyclone, alors que les jardins n'étaient plus productifs pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, là où avant on ne voyait pas de plantes alimentaires, comme en forêt, surgissaient des pastèques, des tomates. Là aussi où étaient avant les maisons cuisines, on poussait des tomates, enfin voilà, toutes les plantes alimentaires qui étaient conservées en graines. Et donc progressivement, en fait, au fur et à mesure où ces plantes grandissaient, les habitants ont construit des petites barrières et donc pendant quelques mois, il y a eu des sortes de jardins, des jardins de subsistance au sein des jardins. Enfin, les récoltes terminées, ces jardins n'ont pas été maintenus dans le village et ont de nouveau été faits là où ils sont faits d'ordinaire, en l'occurrence dans les jardins, qui sont à quelques minutes de marche du village.
Tout à l'heure, on a employé le mot résilience, on a parlé de résilience des jardins. J'ai l'impression que ce n'est pas un terme que vous souhaitez utiliser.
Oui, alors disons qu'en sciences sociales, en tout cas en anthropologie, on est assez frileux avec l'emploi de ce terme qui... Contrairement à la définition de catastrophe dont je vous disais qu'elle était stabilisée, celle-ci, elle n'est pas stabilisée, elle ne fait pas consensus au sein des disciplines. La notion de résilience, elle vient des sciences physiques. C'est un objet qui subit un choc et qui reprend sa forme initiale. Plus tard, dans les années 70, il a été conceptualisé par les sciences du vivant. C'est par exemple un écosystème qui subit un choc et qui reprend sa forme initiale. Mais pour parler de société humaine, de communauté humaine, une catastrophe, en fait... une société, elle se remet jamais comme avant. En fait, le temps a passé, on a pris des décisions, il y a des politiques. Enfin, on ne revient jamais comme on était avant. Au contraire, la catastrophe, ça peut aussi être une expérience dont on va se servir pour améliorer les politiques de prévention, construire différemment sa maison. Et donc, moi, je préfère plutôt le terme de recomposition des jardins. Enfin, pour moi, le terme de résilience, il permet pas d'étudier la situation post-catastrophe de manière fine. Mais c'est pour autant un terme intéressant à étudier et à comprendre parce que le Vanuatu, ça vous a pas échappé, c'est aussi un pays qui dernièrement, dont on entend beaucoup parler à l'ONU pour toutes ses prises de position par rapport au changement climatique. Et justement, ils se plaisent à dire qu'ils sont un peuple résilient, ils ont un ministère du changement climatique parce que ces termes-là, ils sont aussi clés dans le financement du développement. Et la Bank of Asia, par exemple, pour financer ces pays... Elle se base sur la résilience que ces mêmes pays ont pu prouver. Il faut prouver qu'on est un pays résilient pour pouvoir recevoir des dons. Enfin, pas des dons, mais des financements, des prêts. Et donc, c'est des termes qui sont intéressants à analyser sur place pour savoir comment les gens les emploient dans leur quotidien et comment ça fait sens ou pas pour eux. Mais sinon, dans mon travail, c'est un terme que je préfère employer de manière critique plutôt que d'en faire l'apologie ou de le reprendre, en tout cas, à mon compte.
Je voulais revenir sur les modes constructifs. Dans vos travaux, vous expliquez que les habitants et les habitantes de Tongua se sont transmis des connaissances et des pratiques concernant leurs maisons qui sont construites à base de matériaux trouvés localement. Suite au cyclone Pam, il y a eu une aide internationale qui a consisté en partie à aider les familles à reconstruire ou à réhabiliter leurs maisons. Cette aide, elle s'est traduite par un programme de reconstruction qui a été assez contraignant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme, ce que ça induit par la suite dans les modes constructifs?
Alors donc le Vanuatu, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc les habitants ont toujours vécu au contact avec tous ces événements destructeurs et donc ils ont développé en plus de savoirs spécifiques en lien avec leur environnement pour reconnaître les signes avant-coureurs de potentiels événements destructeurs, ils ont aussi développé des savoir-faire spécifiques en termes d'architecture.
Et en l'occurrence, pour se préserver des cyclones, ils construisent des maisons demi-sphériques qui permettent en fait, et qui construisent aussi toujours d'est en ouest, parce qu'on sait que les cyclones frappent toujours dans un certain sens. Ils sont demi-sphériques avec pratiquement aucune ouverture pour limiter la prise au vent. Et en fait, en cas de cyclone, les familles se vont à plusieurs dans les maisons qu'elles jugent les plus récentes et les plus solides et s'accrochent à la charpente et maintiennent la charpente au-dessus de leur tête pendant le temps du cyclone. Quand une maison se détruit, ils font des chaînes humaines et ils vont dans les suivantes. Et au petit matin, souvent, il ne reste plus beaucoup de maisons et tous les villageois sont répartis entre toutes ces maisons. Et c'est comme ça que jusque-là, ils ont survécu. Mais au lendemain du cyclone Pam, la médiatisation de l'événement, parce qu'on venait de vivre un cyclone de catégorie 5 sur 5, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des rafales à 320 km/h, donc qui ont vraiment eu l'effet d'un bulldozer. La médiatisation donc, de l'événement, ça va de pair toujours. Les organisations internationales d'aide et d'urgence sont arrivées sur place. Et dans le cadre, c'est quand même organisé la distribution du matériel, mais dans le cadre de ce qu'on appelle des clusters, dont on a aussi entendu parler récemment, mais pour d'autres raisons. Dans le cadre de clusters qui sont organisés par les Nations Unies, c'est pas complètement anarchique, mais donc dans ce cadre du shelter cluster, les familles ont reçu en fait des tôles ondulées pour que très rapidement elles puissent de nouveau être logées, en fait, parce qu'il n'y avait plus de logement. Et disons les ONG, elles doivent rendre des comptes à leurs bailleurs et montrer qu'en un temps limité, elles ont reconstruit, les kits sont allés aux bonnes personnes et que donc quand elles sont arrivées, il y a eu la photo à T0, tout est détruit et quand elles sont parties, tout est reconstruit. Et donc à Tongoa, effectivement, comme dans les autres îles détruites par le cyclone, les familles ont reçu de la tôle. Ce qui permet de rapidement reloger les familles, mais qui présente aussi d'autres limites. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte subtropical où la tôle rouille rapidement. Pour qu'elle ne soit pas dangereuse et ne coupe pas une personne en plusieurs morceaux en cas de cyclone, justement, qu'elle ne s'arrache pas, il faut les visser et pas les clouer. Et donc ça, c'est des petits matériaux qui n'ont pas forcément été distribués, les gens les ont cloués. Dans un certain sens, ces dons-là qui ne sont pas toujours appropriés au contexte local, ils peuvent venir renforcer la vulnérabilité des familles plutôt que de renforcer leur résilience, pour reprendre le fameux mot, aux événements destructeurs comme les cyclones.
Et donc les habitants et les habitantes vivent désormais dans des maisons en tôle, ou certains d'entre eux, mais ils utilisent toujours les maisons construites traditionnellement en cas de cyclone.
Alors, donc, à l'issue du cyclone et des dons, la plupart des familles vivaient dans des maisons en tôle, mais il y a eu des discussions, enfin, ça n'a quand même pas fait complètement consensus, ces dons. Et donc, progressivement, les familles ont reconstruit leur maison cuisine qui s'appelle les Ekopuni Tongoa, les maisons traditionnelles de Tongoa, et qui considèrent un petit peu comme leur canot de sauvetage, c'est-à-dire que construire ces maisons, c'est aussi maintenir une transmission des savoirs, de maintenir une architecture. Hein. On est là dans un contexte où le patrimoine, il est immatériel. Il n'y a pas des livres et des plans préétablis. C'est pas ce qu'on fait qu'on apprend, c'est pas ce qu'on voit qu'on saura faire plus tard. Donc ça permet d'une part de maintenir ces savoirs vivants, mais aussi de se prémunir en cas de futur cyclone destructeur de la mort, en fait, parce que les maisons en tôle ondulée, elles sont pas du tout demi-sphériques, elles sont avec un toit monopente, ce sont des sortes de rectangles, donc on ne peut absolument pas se maintenir à la charpente pendant les rafales puissantes du cyclone, et donc le toit pourrait s'envoler et mettre en péril la survie des habitants. Donc il y en a qui ont décidé de reconstruire ces petites maisons, mais non pas de la façon dont ils les faisaient avant le cyclone Pam, mais de carrément reprendre les savoirs des anciens. Et donc ils ont même repris ces savoirs-là qui n'étaient plus vraiment vivants au moment du cyclone Pam, et donc ils les ont remis en place. Et ils ont aussi essayé de trouver des lieux, des sites, des techniques pour les rendre encore plus solides qu'auparavant, donc en les enterrant, en mettant des bâches par-dessus, voilà. Donc aujourd'hui cohabitent un petit peu les maisons en tôle, qui sont aussi la parade du développement de la vie à l'occidentale, qui est aussi quelque chose de recherché par les familles. Et il y a aussi toujours ces petites maisons qui sont donc les maisons traditionnelles de l'île.
Une dernière question pour clôturer, Amélie.
Oui, par rapport à ces maisons et ces bateaux de survie, ces canots de survie, je ne sais plus quelle est la...
Canot de sauvetage.
Canot de sauvetage, voilà.
C'est comme ça qu'ils les appellent lifeboat en bislam.
D'accord. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous savez si là, lors du dernier cyclone, en mars dernier, s'ils ont été utilisés, comment ça a pu se dérouler
Alors, c'est une bonne question. Donc là, récemment, effectivement, il y a eu deux cyclones de catégorie 4 qui ont traversé le pays. Alors, j'ai quand même pris des nouvelles des habitants et des habitantes de Tongva, donc il n'y a pas de morts. Effectivement, les maisons ont été détruites. Et j'imagine que si personne n'est mort, c'est qu'ils ont trouvé des abris où aller qui étaient suffisamment résistants et que probablement les canaux de sauvetage habituels, les maisons traditionnelles ont joué leur rôle. Voilà. J'ai pas plus d'éléments de précision à vous donner parce que j'étais pas sur place et que j'ai pas fait d'entretien. J'ai juste pris des nouvelles, voilà. Mais ces maisons-là, elles se retrouvent partout sur l'archipel. Elles ont des formes différentes et les matériaux sont pas toujours les mêmes, mais c'est des savoirs qu'on retrouve de manière assez généralisée au Vanuatu. Il y a d'ailleurs eu une lettre qui a été adressée par les chefs coutumiers du pays pour qu'après un cyclone, au lieu de dépendre de l'aide internationale pour reconstruire, on renforce plutôt l'économie locale en faisant travailler les îles épargnées par les vents, parce que c'est rare qu'un cyclone touche quand même les 82 îles de l'archipel, et donc que les îles épargnées envoient les matériaux locaux vers les îles impactées, et de faire plutôt travailler l'économie circulaire qui maintient les relations sociales entre les habitants, qui maintient des savoirs et qui est surtout adaptée, soit maintenue versus en fait une dépendance à l'aide internationale et finalement des dons qui sont pas durables dans le temps parce que ça se dégrade vite, ça s'entretient pas pareil, ça coûte cher, etc. etc.
Merci Maëlle Calandra, il est temps de clôturer cette émission. Merci à Suzanne Sandka pour la réalisation, Simon Marie à la lecture. Cette émission a été préparée et animée par Amélie Curoda et Julia Martin avec l'aide de Julie Panet. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de radiocampusparis.org.